Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Coup de projecteur dans votre édition sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, en marche vers une Afrique résiliente, le thème de la deuxième édition du Global Women Summit. Elle débutera demain, jeudi, à Dakar, dans le sud du Maroc. La branche afghane du groupe État islamique revendique l'attaque contre un hôpital militaire national de Kaboul. L'attaque terroriste hier a fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Parmi les personnes tuées, un haut responsable taliban. Une nouvelle hausse des prix des carburants au Liban, cela parallèlement à une augmentation des cours mondiaux du pétrole. L'hommage d'Elimas Bounji, président fondateur de Trilogue News, après la mort du chanteur syrien Sabah Fakhri. Elimas Bounji sera l'un de nos invités. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain. Il proposera aux jeunes de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois. Nous y reviendrons avec le président de la FAGE, le syndicat étudiant, Paul Maillot. La deuxième édition du Global Women Summit, elle débutera demain jeudi à Dakar, dans le sud du Maroc. Le thème de cette édition, du 4 au 6 novembre, en marche vers une Afrique résiliente. Objectif, aborder les solutions concrètes pour donner aux femmes les moyens de stimuler la croissance économique du continent. Initiée par la fondation Startup Grow, sous la présidence d'honneur de la princesse Lala Meriem, l'événement réunira des décideurs, des experts et des acteurs nationaux et internationaux. La fondatrice du salon, Anan Ait Aïssa.
On a voulu initier ce rendez-vous parce qu'on a été confronté à un certain nombre de constats ici au Maroc. Aussi, c'est quelque chose qui a été confirmé partout dans le continent africain. C'est que beaucoup de difficultés pour la femme, pour son épanouissement, son autonomisation et surtout l'accès à l'acte d'entreprendre. Et la mise en place de ce rendez-vous, c'est pour permettre la sensibilisation surtout et la vulgarisation de l'importance de l'inclusion numérique de la femme, de son autonomisation pour le développement de l'Afrique et de son économie.
Vous estimez qu'il est urgent aujourd'hui de repenser les politiques économiques des pays africains et qu'ils doivent davantage tenir compte du rôle des femmes dans l'accomplissement des projets?
Absolument. Nous sommes actuellement dans une phase post-Covid-19, une crise sanitaire qui a vraiment aggravé la situation des femmes, surtout parce qu'ils constituent la composante qui a été très touchée par l'impact négatif du Covid-19. Et on s'est dit, dans un monde qui est différent, dans ce contexte new normal, c'est bien de prendre un moment et de repenser un petit peu l'économie africaine, de repenser la gouvernance africaine aussi, en ayant plus d'inclusion des femmes dans des postes de responsabilité, dans les comités de direction, permettre la diversité genre au sein des entreprises et surtout permettre l'autonomisation des femmes. Il y a des études qui ont été réalisées dernièrement qui ont démontré que les entreprises avec un comité de direction où il y a une présence de femmes, ces entreprises, ils ont fait des chiffres d'affaires plus importants. Ce sont des entreprises qui sont plus performantes, plus créatives et surtout où il y a beaucoup d'innovation. Partant de ce constat-là, ceci va vraiment donner à l'Afrique et à l'économie africaine la possibilité de prendre une nouvelle dynamique et avoir une nouvelle vision.
Comment l'expliquez-vous, le fait que les femmes ont été davantage touchées par cette crise internationale liée à la Covid-19?
Les femmes constituent vraiment la partie la plus touchée. Parce que la femme, il doit rester à la maison pour s'occuper de la famille, s'occuper des enfants. Donc, c'est un effet culturel, premièrement. Donc, les métiers qui ont été touchés principalement par la crise sanitaire, ce sont les métiers où il y a une grande présence de la femme. Et aussi, troisième élément, c'est que il fallait, pour pouvoir vivre dans une crise sanitaire, il fallait retourner ou se recentrer sur l'essentiel et sur l'important qui est la famille. Donc, et du coup, comme vous le connaissez très bien, la femme africaine, c'est le noyau dur et c'est la base de toute famille. Et
lors de ce sommet, il y aura une place particulièrement importante pour les jeunes entrepreneurs.
Absolument. Donc nous, dans notre vision et dans notre conception des choses, c'est que on a envie d'agir sur les générations futures. Pour que nous puissions impacter les générations futures, on a besoin de travailler sur le mindset et sur la façon de voir des femmes et des jeunes filles. Et aussi, on a besoin d'avoir avec nous des alliés, d'avoir avec nous des personnes qui vont défendre notre cause et qui vont agir avec nous. Donc, et les jeunes entrepreneurs, les jeunes travailleurs, ça constitue vraiment une niche qui va être accompagnée à travers notre sommet, à travers des workshops, à travers des ateliers qui vont être animés par des chefs d'entreprise, femmes et hommes, bien sûr. Cette jeunesse, il constitue en quelque sorte les générations futures et en étant présents dans un tel événement, ils seront en quelque sorte impactés, sensibilisés et surtout ils vont voir l'importance de l'implication et surtout de l'inclusion et voilà de l'autonomisation de la femme et comment ça peut vraiment donner avantage à l'économie et surtout aussi à l'entreprise. Donc c'est dans cette démarche de préparation des générations futures qu'on a voulu intégrer la composante jeunesse.
L'évolution du rôle des femmes dans les entreprises notamment, comment l'évaluez-vous aujourd'hui ?
Je peux partager avec vous le cas Maroc. Dernièrement, on a vu la nomination de 6 femmes marocaines en tant que ministres dans l'actuel gouvernement. Je peux dire que c'est une très belle réalisation. Ça prouve que le gouvernement, il a une vision. Il veut accompagner cette dynamique d'inclusion des femmes, de diversité. Tout ça, ça rejoint en quelque sorte les directives de Sa Majesté le Roi, qui a depuis 2010, il a travaillé sur un certain nombre de lois, de procédures, de directives pour qu'il y ait plus d'implication et d'engagement de la femme dans la vie économique. Donc, et ça ne peut que servir à développer et à améliorer la réalité de la femme marocaine et la jeune fille marocaine. Dans cette énergie, on a voulu créer cette dynamique à travers l'organisation de notre événement dans la ville de Dakhla, qui est la porte d'Afrique, et créer un hub, créer des ponts pour permettre le partage et l'inspiration et la réflexion autour de sujets qui vont permettre en quelque sorte de repenser les modèles économiques, de repenser les modèles de gouvernance et surtout créer des opportunités de business, créer des plateformes de networking.
L'élection de femmes à la tête de grandes villes marocaines, c'est aussi un signal important.
Bien sûr, nous avons actuellement 3 maires pour la ville de Casablanca, de Marrakech et de Rabat. C'est un signal fort. Une ville qui va être gouvernée par une femme, je peux dire que on va être en face d'une très bonne gestion, une très bonne gouvernance. Parce que déjà dans la structure de la femme psychologique et aussi physique, nous avons une capacité à mieux gérer plusieurs choses à la fois. Donc je suis sûre que nous aurons, Inch'Allah, de très belles réalisations et ces 3 villes ils vont être gérées et gouvernées de la meilleure façon.
La fondatrice du Global Women Summit, Anna Naït Aïssa. La branche afghane du groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre un hôpital militaire national de Kaboul. L'attaque terroriste hier a fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Le groupe rival des talibans a affirmé avoir mené une attaque coordonnée impliquant 5 assaillants. L'un a activé une ceinture explosive à l'entrée de l'hôpital, puis des hommes armés ont pénétré dans l'établissement. Parmi les personnes tuées, un haut responsable taliban, le chef des forces militaires talibanes à Kaboul. Une nouvelle hausse des prix des carburants au Liban, cela parallèle à une augmentation du cours mondial du pétrole. Selon le nouveau tarif publié par le ministère de l'Énergie, le prix des 20 litres d'essence à 95 octanes a augmenté de 7 800 livres libanaises, et cela dans un contexte de crise socio-économique particulièrement grave au Liban. Le chanteur syrien Saba Fakhri est mort hier. Il était une icône de la chanson alépine et célèbre dans l'ensemble du monde arabe. Saba Fakhri était âgé de 88 ans. Il a interprété de sa voix puissante les chants traditionnels. Retour sur son parcours et sur ce qu'il représentait en Syrie et au-delà des frontières syriennes avec Elie Mazbounji, président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère.
Sabah Fakhri est un symbole de l'authenticité, de la sincérité à travers l'art et la musique. Et l'importance de Sabah Fakhri, aujourd'hui disparu, est qu'il a, pendant un demi-siècle, incarné l'authenticité de la culture et de la musique arabe par rapport aux autres, aux déviations ou aux déformations de l'art et de la musique. C'est le tarab. Le mot tarab est intraduisible. C'est une espèce de rêve qui est provoqué par la musique et qui transporte l'auditeur dans un monde qui le fait oublier le problème quotidien. Et Alep, à laquelle il est né, où il est resté jusqu'à la fin de ses jours, se distingue des autres villes syriennes par une culture musicale et poétique supérieure au Syrien moyen, disons. L'importance de Sabah Fakhri, c'est sa constance, sa fidélité à l'art. Il a toujours été là avec une force extraordinaire, physique extraordinaire. Il tenait le micro pendant 4 heures, 5 heures devant une foule de gens sans donner le moindre signe de faiblesse, sans boire un verre d'eau.
Il avait même battu un record en 1968 en chantant pendant plus de 10 heures d'affilée. C'était lors d'une tournée à Caracas.
10 heures sur scène et avec un public aussi enthousiaste de la première minute jusqu'à la dernière. C'est vraiment un phénomène. Et c'est une perte vraiment pour la musique et l'art et le talent syrien et arabe. Il se considérait bien sûr syrien et arabe en même temps, comme beaucoup de Syriens d'ailleurs, et il ne connaissait pas les tendances chauvinistes des uns et des autres. Pour lui, arabité et syrianité, si l'on peut dire, se confondent. C'est ça qui lui donnait, je crois, cette force et cette présence très très forte sur scène, et bien sûr plus tard, jusqu'à nos jours, par les moyens de transmission. Ce qui est aujourd'hui remarquable, c'est que les jeunes qui ont 7 ans et 8 ans à Alep et dans beaucoup de pays arabes se plaisent à entendre la musique et les paroles de Sabah Fakhri, qui à travers la sensibilité artistique arrive à faire bouger quelque chose dans nos tripes et dans notre cœur. Et je ne connais pas personnellement beaucoup d'artistes arabes qui sont arrivés à ce stade de, entre guillemets, pénétration dans l'intimité de chacun.
Vous avez grandi avec ces chansons. Que représentaient-ils pour vous?
À première vue, quand vous regardez, c'est un peu la sensualité de la musique et de l'art. Al-Qudud al-Halabiya, il parlait d'Al-Qudud. Al-Qudud, c'est un mot intraduisible, malheureusement. Al-Qad, ça veut dire l'allure, le charme, l'allure, le charme, la beauté féminine. Donc il a mis en relief la féminité, la sensibilité et la sensualité de la lépine, mais pas en tant que femme dans le sens dans la définition la connotation sexuelle, mais cette richesse qu'apporte la femme à l'épine, à la culture et à l'art et à la musique arabe. Le kodou de l'halabiya, c'est un mot intraduisible, une expression intraduisible, mais elle fait vibrer notre cœur et notre esprit.
Eli Mazbounji, président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère. Il est arrivé hier soir à Marseille, le premier ferry reliant Alger à la cité phocéenne depuis mars 2020. Le transport maritime de voyageurs entre l'Algérie et la France avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. La réouverture des liaisons maritimes pour le transport de voyageurs vers la France et l'Espagne a été annoncée le 12 octobre dernier par le ministère algérien des Transports. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain. Il proposera aux jeunes gens de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, cela en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Le regard sur cette mesure du président de la FAGE, le premier syndicat étudiant, Paul Maillot.
C'est avec beaucoup de déception qu'on peut recevoir cette annonce, effectivement, par rapport aux ambitions premières qui avait été énoncé autour de ce revenu d'engagement devenu contrat d'engagement. Il y a des choses hein, tout de même qui sont mises en place, bien entendu, qu'il faut souligner. C'est plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui seront accompagnés, des jeunes sans emploi, des jeunes sans formation. En revanche, on déplore tout de même le manque d'ambition de ce dispositif qui se voulait vraiment très englobant, qui voulait vraiment prendre en considération tous les jeunes, quels que soient les profils. C'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui.
L'encouragement, justement, à la formation, est-ce un élément que vous saluez ?
Oui, effectivement, le retour vers une formation pour les personnes qui ont pu être décrocheuses, pour des personnes qui souhaitent se reformer après avoir pu avoir un parcours professionnel court ou plus long, peu importe. Oui, ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut saluer.
Étiez-vous favorable au revenu universel ?
On s'est toujours positionné avec la FAGE sur un revenu qu'on peut retrouver sur des montants proches de celui du RSA à destination des jeunes de moins de 25 ans, mais en revanche avec toujours un accompagnement humain et adapté à chaque profil, aussi différent qu'il soit.
Est-ce que vous estimez là qu'une partie importante de la jeunesse est exclue de ce dispositif annoncé par le président français ?
Oui, effectivement, on peut retrouver les jeunes personnes actives qui sont dans des situations précaires. On a pu avoir le taux de chômage qui a baissé, et du coup, comme justification pour l'abaissement de cette ambition pour ce contrat d'engagement. Mais quand on regarde dans le détail, au final, les personnes qui sont salariées à temps partiel, c'est plus de 26% des jeunes de moins de 25 ans qui composent ces derniers. Donc quand on regarde vraiment dans le détail, c'est un peu compliqué donc effectivement de pouvoir inclure les jeunes actifs, les jeunes diplômés également, qui ne sont aujourd'hui pas considérés par le dispositif, qui pourtant, quand on obtient une licence à 21 ans ou un master à 23 ans, on n'est pas accompagné aujourd'hui financièrement ou humainement, donc ça peut être compliqué d'aller vers un emploi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce genre de profil qui aujourd'hui manque cruellement dans ce contrat d'engagement.
Paul Maillot, président du syndicat étudiant La Fage. Il tentait de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche dans des embarcations. 292 candidats à l'exil ont été secourus et ramenés sur la côte française hier. Une annonce aujourd'hui de la préfecture de la Manche. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash. 17h30 pour votre journal en langue française. L'invité de Pluriel, ce soir à 19h et 23h, sera Frédéric Descrozailles, député de La République En Marche du Val-de-Marne, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h18.